Chapitre 4. Monsieur et Madame Gilman, les cousins d'Otto Mulbar, résidaient à Wilnheim, petite ville de la Prusse rhénane, toute pittoresque et tranquille. On y voyait de vieilles maisons, une vieille église, de tranquilles petites places ombragées. Les Gilman habitaient un ancien logis un peu sombre, garni de solides meubles sans grâce et de tentures fanées. Anciens commerçants, ils jouissaient d'une belle aisance et pratiquaient une large hospitalité. Ils accueillirent avec empressement les hôtes qui leur arrivaient de France. Otto Mulbar, sa femme, Florita, et Madame Ulrich Mulbar avec ses deux enfants. Monsieur Ulrich se réservait d'arriver plus tard, étant retenu, disait-il, par des affaires. Les Gilman se montrèrent fort aimables pour Florita. C'étaient de vieilles gens de province qui s'enorgueillissaient d'avoir un fils professeur d'université. Bonnes gens, d'ailleurs, mais aisément vaniteux et qui manquaient parfois de tact. Florita, au bout de quelques jours, avait déjà éprouvé quelques petits froissements, comme par exemple quand M. Gilman s'appesantissait avec une lourdeur toute germanique sur les souvenirs de la guerre de 70 et montrait avec complaisance la pendule que lui avait rapportée de France un de ses parents sous-officiers dans l'armée allemande. Une pendule qu'il a achetée, mademoiselle, car il est faux que, sauf exception, comme en toute guerre, nos glorieux soldats aient dévalisé les cheminées françaises. Ce sont des légendes qu'il importe de détruire, croyez-le bien. Florita n'en croyait rien du tout et restait sur la réserve, en dépit de l'affabilité de ses hôtes, affabilité un peu obséquieuse, lui semblait-il. Par ailleurs, elle aimait cette petite ville tranquille et surtout prenait grand plaisir aux excursions que lui faisait faire son oncle en compagnie de Lottchen et de Melchior. Chaque jour, elle écrivait de longues lettres à M. de Pinvalas, lui racontant son existence, lui redisant délicatement sa tendresse, son désir de le revoir au plus tôt. Quand les 15 jours arrivèrent à leur terme, la jeune fille, voyant qu'on ne parlait pas de départ, s'informa près de sa tante. Pépita répondit « Nous prolongerons de quelques jours, c'est-à-dire jusqu'au début de la semaine prochaine, probablement. Les Gilman insistent beaucoup pour nous garder encore un peu, et d'autre part, en ce moment, je me sens vraiment trop fatiguée pour voyager. » De fait, elle semblait extrêmement nerveuse et préoccupée. Parfois, quand elle regardait Florita, sa physionomie s'assombrissait, des tressaillements l'agitaient, et elle semblait désormais éviter de se trouver seule avec sa nièce. Otto, lui, se montrait fort affectueux pour la jeune fille, et empressé à lui procurer les distractions qu'il savait lui plaire. Ce fut ainsi qu'il déclara que, puisque le séjour était prolongé, il emmènerait un de ses jours ses enfants à Cologne, que toutes deux ne connaissaient pas. Ils y resteraient 48 heures et rejoindraient ensuite à Aix-la-Chapelle Pépita et sa femme de chambre qui, de Wilnheim, s'y rendraient de leur côté. Tous alors reprendraient ensemble le chemin de France. Cet arrangement plaisait à Florita, qui désirait beaucoup visiter Cologne. Mais le 22 juillet, elle reçut de son fiancé une lettre qui l'inquiéta. Il lui disait « J'aimerais que tu ne tardes pas à rentrer, ma Florie aimée. Il court des bruits de guerre, peut-être ne sera-ce qu'une alerte. Mais je me sentirais plus tranquille de te savoir ici. » Des bruits de guerre? Florita n'en avait pas entendu. On ne parlait de rien à ce sujet chez les Gilman, et tout le monde semblait tranquille. La jeune fille avait bien remarqué, au cours des excursions qu'elle faisait, un certain mouvement de troupes, mais Otto Mulbar avait dit « Ce sont des réservistes qui font leur période. » Et cela était si parfaitement vraisemblable qu'elle n'avait pas eu un instant l'idée d'autre chose. Aussi l'inquiétude d'Alain l'étonnait-elle beaucoup. Elle se rendit à la chambre de sa tante. Otto se trouvait près de sa femme, et dès les premiers mots de Florita leva les épaules. « Rien à craindre, du moins pour le moment, cher enfant. Il est bien vrai qu'il y a des tiraillements entre l'Autriche et la Serbie, que la Russie fait mine de s'en mêler. Mais la diplomatie travaille, et notre empereur, ami de la paix, fera tout son possible pour qu'une honorable transaction aboutisse. » Avec un rire cordial, il ajouta, en appuyant sa main sur l'épaule de la jeune fille, « Rassure donc ton fiancé à ton sujet, Florita. Ce n'est pas cette fois encore que tu seras prisonnière en Allemagne. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous reprendrons le train de Paris. » Madame Mulbar, elle, ne disait mot, et fermait à demi les paupières. Mais comme elle souffrait de la tête ce jour-là, Florita ne s'étonna pas de cette attitude. Et n'ayant d'autre part aucune raison de suspecter la bonne foi de son oncle, Elle écrivit à Alain une lettre rassurante en lui annonçant un prochain retour. La veille du jour fixé pour le voyage à Cologne, Otto Mühlbach reçut une lettre d'affaires l'appelant à Francfort. 24 heures à passer là-bas, 2 journées perdues pour l'aller et le retour. On verrait s'il était possible de retarder un peu le départ pour la visite à Cologne. Mais Florita déclara « Oh non, mon oncle, ne retardons rien, j'irai plus tard, voilà tout. » Mais Alain serait trop contrarié de ne pas me voir arriver bientôt. « Soit, nous partirons donc aussitôt mon retour. » Un jour passa, puis 2, puis 3. Otto ne revenait pas. Il écrivait « Cette affaire n'en finit pas, et moi qui croyais en être quitte si vite, quel ennui. Enfin, j'espère que ce sera pour demain. » On atteignit ainsi le 28 juillet. Aucun bruit fâcheux ne parvenait aux oreilles de Florita. Monsieur et Madame Guilman semblaient aussi paisibles qu'à l'ordinaire. Les jeunes filles sortaient chaque jour en voiture avec Pépita, que la marche fatiguait beaucoup maintenant. On voyait bien passer des soldats en tenue de campagne, mais Lottchen disait comme son oncle, ce sont des réservistes. Et Florita ne remarquait pas la lueur de joie méchante qui traversait les prunelles trop claires. Le 29, le 30, le 31, elle attendit vainement la lettre quotidienne de son fiancé. Otto Mühlbach, de son côté, ne donnait pas signe de vie. Pépita semblait de plus en plus nerveuse. Quant à Florita, elle s'inquiétait et parlait de télégraphier à monsieur de Pinvalas. Le 1er août, Mühlbach apparut enfin. Il déclara « J'ai été fort occupé, mais je t'ai cependant écrit avant-hier, Pépita, un petit mot pour t'informer de ce retard. Tu ne l'as pas reçu ?» Elle balbutia « Mais non. » « Étonnant. Il est vrai qu'en ce moment, il peut y avoir un peu de perturbation dans les services. » Il laissa passer un temps de silence avant d'ajouter, d'une voix dont il modérait avec peine des vibrations triomphantes, « Car je crois que, décidément, nous sommes au seuil de la guerre. » Florita, assise près de sa tante, se mit debout d'un bond. « La guerre ? Vous me disiez pourtant l'autre jour. Eh, ma chère enfant, j'étais persuadée, comme beaucoup d'autres, que tout cela s'arrangerait. Mais les rues sont tout brouillées par leur attitude provocante, et nous ne pouvons subir cette injure. » Florita, devenue toute pâle, dit d'une voix frémissante. « Alors, la France ? Eh bien, j'espère que ses gouvernants seront assez sages pour laisser l'allié moscovite se débrouiller seul, sans quoi, naturellement, c'est la guerre, à bref délai. Ah, c'est pour cela qu'Alain, la guerre, la guerre !» Elle répétait ce mot avec des lèvres qui tremblaient, et dans le regard passaient des lueurs comme des flammes. Madame Mühlbach, les yeux baissés, froissait les rubans de son peignoir. Florita dit vivement « Eh bien alors, il faut partir tout de suite, mon oncle !»« Impossible, ma chère petite, les trains ne passent plus la frontière. »« Les trains ne... Mais alors, c'est imminent !»« Il est probable que la mobilisation française sera décrétée aujourd'hui. »« Aujourd'hui ?» Mais cela ne signifie pas que tout ne puisse encore s'arranger. La France est éminemment pacifique, ses dirigeants ne veulent pas la guerre et feront toutes les concessions nécessaires au dernier moment. Florita se redressa, les yeux étincelants. Oh, cela, j'espère bien que non, par exemple. Voilà trop longtemps que ce pacifisme-là nous a fait tous aider. Maintenant, l'honneur de la France est en jeu. La voyez-vous abandonnant son allié? Mais ce serait renier tout son passé. Mühlbach eut un léger ricanement. « Bah, bah, les Français n'ont plus l'âme si guerrière, ni chevaleresque, pourvu qu'ils restent bien tranquilles, bien... » Florita l'interrompit brusquement. « Les Français sont toujours les mêmes, vous le verrez bien si la guerre éclate, et cette fois ils prendront leur revanche sur cette Allemagne insatiable, toujours avide du bien d'autrui. » Otto se redressa, les traits contractés. « Tu oublies que je suis allemand. Vous oubliez bien, vous, que moi je suis française. » Ils se dressaient en face l'un de l'autre, se défiant du regard, ennemis tout à coup. Le masque tombait. Mühlbach laissait voir l'hostilité jusqu'alors secrète qu'il avait toujours eue pour cette ardente petite Française dont le patriotisme lui était bien connu. Et Florita, en cet homme qui lui avait en quelque sorte servi de père, ne voyait plus maintenant que l'Allemand, l'ennemi. Pépita se leva, mit sa main sur le bras de sa nièce. « Flori, Otto !» « Calmez-vous, il n'y aura peut-être pas de guerre, tout s'arrangera. »« Soit, pourvu que ce ne soit pas au déshonneur de la France. J'ai pourtant mon fiancé là-bas, qui serait un des premiers à partir. Mais mon pays avant tout, la France ne doit pas reculer, Elle ne reculera pas. Et je veux y retourner. Je ne veux pas rester dans cette Allemagne. Il doit y avoir des moyens.
Aucun moyen praticable pour une jeune personne comme toi. Prends ton parti de rester ici, jusqu'au moment où il nous sera possible de regagner tranquillement nos pénates. »
Et avec un sourire d'ironie, Mulbar ajouta, « Ce ne sera pas très long. Dans 15 jours, 3 semaines, notre armée sera dans Paris. »
« C'est ce que nous verrons bien. » Et toute frémissante, Florita s'élança vers sa chambre. Là, elle se jeta à genoux, le front entre ses mains. Était-ce possible ce que venait de lui dire cet homme? La guerre, dont on parlait depuis tant d'années, sans presque plus croire à sa possibilité. La guerre était peut-être déclarée à cette heure-ci. Et Alain partirait sans qu'elle l'eût revue, et elle resterait prisonnière dans cette terrible Allemagne. Quelle chose atroce! Elle tremblait et priait, les mains jointes, la poitrine soulevée de sanglots. Puis tout à coup, elle se redressa, les yeux brillants, transfigurés. S'il lui fallait demeurer quelque temps parmi ces teutons, elle voulait leur montrer une Française au cœur intrépide, à l'âme pleine d'espoir. Déjà chez Mulbar, elle avait vu luire la joie insolente. Ils s'imaginent tous la tenir, cette France tant convoitée. Mais elle ne courberait pas le front, elle ne se découragerait pas quoi qu'elle apprît. Elle saurait dissimuler à ses yeux ennemis son angoisse en vraie fille et fiancée d'officier français. Le lendemain, 2 août, Florita apprenait la nouvelle officielle de la mobilisation française. Otto Mulbar lui apporta des journaux allemands qui, naturellement, présentaient les faits à leur façon et montraient la France et la Russie en posture d'agresseur. La jeune fille, après les avoir parcourus, dit froidement « Je voudrais entendre l'autre cloche. Les affirmations allemandes ne me suffisent pas. » Otto ricana un peu. « Impossible de te procurer des journaux français pour le moment, ma petite. Mais bientôt tu les liras à Paris. » Elle dédaigna cette fois de riposter. Et ce furent alors les longs jours d'attente, d'inquiétude, de froissement douloureux. Les journaux ne parlaient que de victoire, exaltaient les hauts faits de l'armée envahissant la Belgique, au mépris des traités, brûlant, pillant, massacrant. Mulbar, ses cousins Gilman, Lotchen avaient des airs de triomphe, et ne se gênaient pas pour parler avec mépris de cette pauvre armée française. Melchior sifflait toute la journée, la garde sur le Rhin, et chantait à tue-tête l'Allemagne, l'Allemagne au-dessus de tout, dès qu'il apercevait sa cousine. Mais Florita restait impassible, comme elle se l'était promis. Nulle, pas même sa tante, d'ailleurs froide et gênée à son égard, ne voyait la souffrance, l'angoisse déchirante de son âme, tremblante pour ses deux amours, la patrie et le fiancé. Mulbar, sans doute persona grata près d'importantes personnalités, avait fait avec succès toutes les démarches nécessaires pour que sa nièce ne fût pas inquiétée en qualité de Française. Néanmoins, dans les rues de la petite ville, les femmes, jalouses de sa beauté, de son élégance naturelle, de ses toilettes très simples pourtant, mais qu'elle portait comme nulle autre, la regardait de travers. Mais mademoiselle de Valser passait fière, indifférente, comme elle l'était à l'égard des méchancetés de Lotchen. Car la jeune personne, maintenant, donnait libre cours à sa malveillance, et ce fut elle qui annonça un matin à Florita « Il paraît que le régiment de monsieur de Pinvalas a été fort maltraité en Alsace. » Florita eut un grand coup au cœur, mais elle parvint à dire avec calme « On raconte tant de choses !» Quand elle fut seule, elle pensa à l'âme étreinte d'une poignante angoisse, si elle disait vrai pourtant. Ce même jour, Otto Mulbar apparut en tenue de capitaine d'infanterie. Comme officier de réserve, il venait d'être mobilisé et partait pour rejoindre son régiment. Pépita semblait accablée. Son mari eut avec elle un long entretien, lui adressa des recommandations qu'elle écouta d'un air morne. Il conclut par ces mots. « De toutes tes forces, attache-toi à germaniser cet enfant. » À lui montrer en toute occasion la puissance et les vertus allemandes, et fais en sorte qu'elle n'ait pas de rapport avec ces Pinvalas, qui en ont fait une ridicule petite chauvine. Florita, que la vue de son oncle en officier allemand exaspérait, s'était arrangée pour se trouver au fond du jardin quand il partit, et elle feignit de ne pas entendre les appels de Lotchen. Cet homme, elle le détestait, d'autant plus que ses yeux commençaient de s'ouvrir à son sujet et qu'elle devinait quelques-unes des fourberies dont il s'était rendu coupable. Peu après le départ d'Otto, elle apprit la bataille de Charleroi, le recul des forces franco-anglaises, puis l'invasion du nord de la France, la prise de Lille, l'avance allemande qui semblait devoir tout renverser, la ruée sur Paris. Jours horribles, dont la tragique douleur s'augmentait encore dans cette atmosphère ennemie, près de ces êtres qui exultaient bruyamment, d'autant plus bruyamment qu'il s'agissait de froisser la Française. Mais Florita ne faiblissait pas. Soutenue par sa foi, elle restait ferme et espérait toujours. Diligemment, elle tricotait avec une hâte pieuse, car elle savait que, déjà, les prisonniers français étaient nombreux, et espérait pouvoir leur faire parvenir ces bonnes chaussettes dont ils auraient tant besoin. Elle ne connut pas à ce moment la bataille de la Marne, que les Allemands passèrent sous silence. Mais elle sut que, pour des raisons stratégiques, disaient les uns, parce que le choléra y régnait, assuraient les autres, ils n'étaient pas allés jusqu'à Paris. Et sur la carte, elle se rendit compte, bientôt, d'après le nom des localités citées dans les communautés, du recul effectué par les armées du Kaiser. D'ailleurs, les Guillemann et Mulbart ne semblaient plus tout à fait aussi triomphants. Madame Guillemann maugréait souvent contre ces maudits Anglais, et suivait d'un œil anxieux sur la carte l'avance des Russes en Prusse orientale et en Galicie. Madame Guillemann gémissait. « Nos pauvres soldats, les Français en font un massacre avec leur horrible 75. De pareils engins devraient être défendus. » À quoi Florita ripostait. « Défendu comme de violer la neutralité d'un pays, sans doute, mais défendu seulement pour les Français, tandis que vous autres, Allemands, vous pourriez employer les pires horreurs. » La vieille dame se redressait en prenant un air digne. « Mademoiselle, nous sommes une nation civilisée entre toutes. On raconte beaucoup de mensonges sur nos soldats. Il ne faut rien en croire. Pas même la destruction de Louvain, de Malines, de notre cathédrale de Reims. » Madame Guillemann levait les mains au plafond. Ce sont les nécessités de la guerre. À Louvain, à Malines, comme partout en Belgique, la population a tiré sur nos troupes. Dans les tours de la cathédrale de Reims, des mitrailleuses étaient installées. Ceci ressort des rapports de nos généraux, ainsi que l'écrivait hier Otto à sa femme. Florita ripostait avec une froide ironie. Vous me permettrez de ne pas croire, comme parole d'évangile, les rapports des généraux allemands. Lottchen montrait maintenant une perpétuelle mauvaise humeur. Elle s'ennuyait à Wilhelmsheim et aspirait à retrouver Paris, ses habitudes. « Sont-ils bêtes, ces Français ? » disait-elle en levant les épaules. « Quelle idée de nous résister ! Ils feraient bien mieux de céder tout de suite, puisqu'il faudra toujours en arriver là. » Car le dogme de l'invincibilité de l'Allemagne n'était pas discuté ici, non plus qu'ailleurs, dans l'Empire à cette époque-là. Madame Gertrude Mulbart avait reçu, par la Suisse, des nouvelles de son mari. Naturalisé, il était demeuré à Paris. Au début, il avait eu quelques ennuis, mais maintenant, cette effervescence s'était calmée. L'excellent Ulrich pouvait donc continuer en paix sa petite besogne d'espionnage, et il engageait sa femme et ses enfants à venir le retrouver bientôt en passant par la Suisse. « J'ai ici des protections qui vous préserveront de tous ennuis, écrivait-il. Venez donc sans crainte. D'ailleurs, nos armées vont sous peu atteindre Calais. Et ensuite elles reprendront leur marche sur Paris, où vous aurez le plaisir de les acclamer quand elles passeront sous l'arc de triomphe. » Mais Madame Gertrude faisait la sourde oreille, aussi bien à cette engageante perspective qu'aux tracasseries de sa fille. Elle avait la terreur des camps de concentration et se jugeait beaucoup plus tranquille dans son pays natal. Selon les instructions d'Otto, on laissait ignorer à Florita la possibilité d'obtenir son rapatriement par la Suisse. De même, des lettres de son fiancé, de Madame de Pinvalas, d'Armel, venues par cette voie, ne lui avaient pas été remises. Tel avait été le sort, d'ailleurs, des lettres et télégrammes envoyés par Alain 3 jours avant l'ouverture des hostilités et où il pressait Florita de partir. Séquestrée en quelque sorte dans ce milieu hostile, elle ne savait pas ce qu'on voulait bien lui apprendre et ignorait qu'elle pût tout au moins essayer de faire parvenir de ses nouvelles à Runesto. Ainsi, il lui fallait endurer ce silence pesant parmi ses étrangers, ses ennemis, avec, en outre, la surprise pénible que lui causait la froideur de sa tante, cette sorte d'indifférence mêlée de gêne qui caractérisait maintenant l'attitude de Pépita.